Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Foot autour de la table. Aujourd'hui, Philippe Doucet. Bonjour Philippe.
Bonjour Monsieur Hugo.
Bonjour Freddy Koula.
Bonjour Hugo.
Bonjour Dominique Sérac.
Bonjour Hugo.
Bonjour à tous. Antoine Grenier, il va falloir faire aussi bien en termes d'enthousiasme. Bonjour Antoine.
Salut Hugo, salut à tous.
Oui. C'était bien?
Est-ce que c'était pas mal?
Excellent.
C'est très fort.
Avec nous également, une vieille connaissance.
Vous êtes dans l'un des plus beaux pays au monde.
Moi j'ai eu la chance et l'immense honneur de vivre dans ce magnifique pays qu'est la Russie. Ça serait l'une des plus belles coupes du monde que la FIFA ait à organiser et vous le verrez.
Vous reconnaissez cette voix?
Samuel
est office également sera d'une certaine manière avec nous tout à l'heure pour parler, vous l'aurez entendu, de la Coupe du Monde des chances africaines en Russie. Et oui, Daniel Valo, l'envoyé spécial permanent de RFI à Moscou, l'a rencontré, c'était hier. En attendant d'entendre Samuel Eto'o, nous parlerons de l'un de ses anciens clubs, le Barça, bientôt sacré champion d'Espagne. Ce titre sera-t-il une grande satisfaction ou bien une très maigre consolation pour le club catalan? On a quand même le sentiment que quand on fait le bilan de sa saison, tous les chemins mènent à Rome. Nous prendrons également des nouvelles de Neymar, un autre ancien du Barça, bien sûr, la vedette brésilienne du Paris Saint-Germain, qui ne devrait pas rejouer avec son club cette saison. Neymar, qui a déclaré qu'il était triste de ne pas aider ses coéquipiers du PSG à remporter des titres en France en cette fin de saison. Alors faut-il le croire, puisqu'apparemment il s'est bluffé, Neymar, je vous rappelle, qu'il jouait au poker quand ses coéquipiers marchaient sur Monaco dimanche soir. Radio Foot, une émission pensée, élaborée avec David Finzel, réalisée par Guillaume Ploquin. C'est parti.
Uy, qué error, espera al ver, vaya error, Coutinho, Coutinho por la Paco Alcázar de primera, se pelea, puede marcar de pelea. Cara Maxi Gómez dentro del área, Maxi ante André Gómez, Maxi, gol, 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 gol del Celta, el gol de la redención de Johnny, aparece por sorpresa, Semedo, pare con Dembélé, qué buena, Semedo, Semedo la pone, Paulinho, gol, 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 gol del Barça, Paulinho, marcó el brasileño, Celta 1, Barça 2.
Celta está teniendo la posesión de balón, el Barça un poco encerrado.
Entra el remo.
Le Barça est tout proche d'un nouveau sacre au Liga. Début de la 33e journée hier, le club catalan est reparti de Vigo avec un match nul face au Celta de partout. Pas de quoi vraiment effrayer Messi et ses coéquipiers puisque leur avance au classement est confortable. Le titre de champion sera couplé à un record d'invincibilité déjà établi sur le plan national. On en dira plus tout à l'heure. Sur le papier donc, elle est emballante cette fin de saison du Barça. Seulement, le fiasco de Rome en Ligue des Champions est également passé par là. Alors va-t-on vraiment parler d'une saison réussie pour le Barça après cet échec européen? L'observation elle vaut bien sûr également pour City, pour le PSG. Qu'en pensez-vous?
Ben je suis très étonné par les débats actuels qui nous explicitent que en gros être champion national c'est pas grand chose, il faut juste réussir deux matchs dans l'année quoi, en gros, enfin un huitième, un quart ou un... Et là, par contre, ça, c'est une très, très grosse réussite. Par contre, un titre national, c'est rien. Je crois que le football a beaucoup changé. C'est vrai qu'on est à une époque de titres à 100 points, 95 points, 100 points. On est habitué à gagner 5-0, 7-1 contre son second, etc. Donc, ça banalise et modifie tous les avis. Mais pour autant, moi, je considère que tous ces clubs dont on vient de parler, évidemment, ont fait une bonne saison. Évidemment, Manchester City... ils ont fait une saison comme ils n'ont jamais fait de leur histoire. Le Barça, c'est une très bonne saison compte tenu d'une équipe qui n'est pas exceptionnelle pour le Barça, qui est plutôt un peu en deçà de ce qu'elle était ces dernières années. Du coup, ils ont fait quand même une saison assez remarquable avec un couac retentissant, on en reparlera évidemment, mais un match. Et puis le PSG, pareil, bonne saison, évidemment, bonne saison.
Alors j'y faisais allusion.
On ne comprend pas ce débat.
Antoine Grenier, j'y faisais allusion. Ce titre, il est acquis avec la manière. En ce qui concerne le Barça, ça a été également le cas pour City et pour le PSG. Il y a des records cette saison pour ces clubs-là.
Bah oui, notamment donc pour Barcelone, parce que ils sont en tête du championnat, les Barcelonais. Ils vont certainement être champions, mais ils n'ont toujours pas perdu. Surtout, ils ont fait 8 matchs nuls. C'est leur pire résultat cette saison en Liga, et ils ont battu le record de 40. Ils en sont à 40 matchs sans défaite en championnat. C'est tout simplement le record de l'histoire du championnat espagnol. Du côté de City, en devenant champion d'Angleterre après 33 journées, les Citizens ont égalé un record de précocité, celui de United. C'est toujours bon à prendre quand on s'appelle City. United qui avait été sacré après 33 journées lors de la saison 2000-2001. Et puis les Citizens, ils peuvent encore battre un certain nombre de records, comme celui de points marqués, de victoires en championnat. Ils en sont à 28 et il faudra rattraper Chelsea avec 30 victoires. C'est ça le record des Blues. Puis il y a aussi Paris. Paris, forcément, qui a battu le record de buts marqués en une saison de Ligue 1. Ils en sont à 103. Mais le record sur un championnat, lui, il reste pour l'instant parisien, mais du côté du RC Paris, en 1959-1960, avec 118 buts.
Et pourtant, Dominique, quand Paris remporte officiellement la Ligue 1 dimanche, la fête, elle est tiédasse. Pour parler gentiment.
Elle est malassonne devant un public.
Alors vous comprenez pourquoi?
Bah, je ne sais pas si je suis d'accord avec Philippe, mais moi je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque une dose d'émotion. C'est-à-dire qu'une saison c'est des titres.
Là je suis d'accord.
Une saison c'est des titres. Et ça, moi je remets pas en cause. Je suis d'accord avec Philippe. On réussit sa saison, mais après le football c'est la trace qu'on laisse et c'est la dose d'émotion qu'on a donnée. Moi Barcelone, le Paris Saint-Germain et Manchester City, j'ai pas mon compte. J'ai pas mon compte. Alors j'ai mon compte sur la trace que laissera dans le jeu peut-être le City de Guardiola, parce que j'ai vu des matchs exceptionnels. Barcelone, je trouve qu'il y a une régression avec Valverde, et le Paris Saint-Germain, je ne vois pas où est la progression avec Neymar et Mbappé. J'ai pas eu mon quota d'émotion. Un match par-ci par-là contre Dijon ou Bayern Munich en championnat ou en Ligue des Champions. Et puis parce que dans cet effectif-là, quand vous avez Messi, vous attendez énormément de choses. Quand vous avez Neymar et Mbappé, vous attendez énormément de choses. Quand vous avez Gabriel Jesus, Agüero, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Sterling, vous attendez énormément de choses. Donc il y a aussi l'écart entre au début de saison ce que vous projetez et ce qui se passe à la fin.
Alors là, c'est intéressant ce que dit Dominique. Le reproche qu'on peut faire à ces équipes, c'est moins en termes de résultats qu'en termes de jeu. Vous en pensez quoi, vous, de ce débat-là? Est-ce qu'on réussit sa saison quand on a des moyens illimités, quand on vise très haut et qu'on se fait sortir des quarts de finale de la Ligue des Champions, mais qu'on est tout de même champion sur le plan national, Freddy Koula?
Perso, je pense que le débat est relatif et symptomatique à la facilité avec laquelle, entre guillemets, hormis d'ailleurs la Juventus de Turin qui a cravaché un tout petit peu pour revenir sur les talons du Napoli, mais on a l'impression que ces équipes entre le Barça et City ont facilement gagné le championnat entre guillemets et qu'on en attendait un peu plus de ces équipes-là. Et le FC Barcelone souffre de la comparaison avec l'ennemi, le Real de Madrid, qui règne sur l'Europe. Et naturellement, si vous voyez bien, la pression est mise par les socios, par les supporters du Barça, etc., qui disent on en veut plus. Effectivement, en vouloir plus, c'est justement talonner le rival barcelonais en Europe. Et justement, City, en ce qui concerne Guardiola, ben on voulait quelque chose d'un peu plus que le championnat. Il avait déjà écrasé la concurrence en championnat. Il avait montré de belles choses. On voulait le grand Guardiola en Ligue des Champions, lui qui est censé être le meilleur entraîneur de la planète, il n'a pas montré grand chose. Ça laisse ce petit goût d'inachevé qui fait que le Saint Graal n'a pas été atteint.
À qui la faute, Philippe? La faute aux médias qui en attendent trop, aux supporters qui sont trop exigeants ou pas assez connaisseurs? Non. La faute au club qui communique mal? Je pense là, oui, au Paris Saint-Germain qui annonce d'entrée un objectif
Pour le cas du PSG, typiquement, c'est l'absurde. L'absurde communication qui ne pense qu'à une chose, qui ne parle que d'une chose, c'est la Ligue des Champions. Du coup, on a l'impression qu'à chaque fois, la saison se joue sur un match, ce qui est quand même assez grotesque, je suppose, parce qu'on me dit toujours, mais vous avez quand même pas, le PSG n'a toujours même pas mis 400 millions pour Neymar et Mbappé pour juste gagner le championnat. Je retourne la question, est-ce qu'on met 400 millions et on achète Neymar, Mbappé sur 5 ans pour gagner un match contre le Real le 6 mars? Ben non. C'est beaucoup plus absurde, cette proposition est beaucoup plus absurde que l'autre qu'on m'oppose. Et évidemment qu'on essaie de construire des équipes sur la durée, mais il y a une équipe qui va gagner la Ligue des Champions. Donc les 31 autres qui ont participé sont des nulos complets?
Non, mais encore une fois, il y a l'idée de progression. Barcelone se fait éliminer deux saisons de suite en quart de finale. Trois saisons de suite en quart de finale. Mmh. Et ils ont Messi et Neymar pendant longtemps, et là, ils ont plus que Messi. Mais avoir que Messi, moi, ça m'arrangerait aussi dans mon équipe. Le Paris Saint-Germain, certes, ils n'ont pas dépensé 400 millions sur un match, mais c'est la deuxième année de suite qu'ils sont sortis en huitième de finale contre un mythe, mais qui n'est pas une énorme équipe. C'est-à-dire que le Barcelone, l'année dernière, n'était pas une énorme équipe. Je persiste à penser quand bien même le Real Madrid gagnerait la Ligue des Champions, que ce n'est pas un grand Real Madrid cette saison. Donc, quand est-ce que ces équipes-là progressent? Et City avec Guardiola, c'est pareil. L'année
dernière, c'était Monaco. Ils ont progressé énormément.
Et l'année dernière, c'était Monaco. Cette année, c'est Liverpool.
Le Manchester City du championnat, lui, oui. Eux, on peut dire qu'ils ont progressé.
Antoine Grenier.
Là où je rejoins... Et même le PSG aussi, ils n'étaient même pas champions l'année dernière, je vous rappelle.
Je rejoins Dominique sur le fait qu'effectivement, le FC Barcelone paraît être un petit champion parce que le Real Madrid n'a pas été à son niveau en championnat cette saison. Ils l'ont été en Ligue des Champions, mais pas forcément en championnat. Mais c'est un peu pareil sur les trois championnats dont on parle, l'Espagne, l'Angleterre et la France. C'est pas seulement la faute de l'équipe qui gagne, s'il n'y a pas de frisson, c'est aussi la faute de la concurrence.
Un manque de concurrence.
Dominique a dit le mot juste.
Il est flagrant en France, mais il commence aussi à exister en Espagne et en Angleterre.
Mais il y a un problème d'émotion qui est lié à ce football d'aujourd'hui, où on concentre tous les meilleurs joueurs sur quelques clubs, et du coup, je suis désolé, mais on s'ennuie 8 mois de la saison.
Je suis pas d'accord.
Parce que les équipes dominent
trop. Marseille a donné des émotions folles à la France.
Oui. Sur un match. Quoi, c'est pas une question de niveau.
Face au 8e du championnat allemand. Donc, vous voyez que les émotions, elles peuvent surgir un peu partout et de manière inattendue.
La déception vient aussi du fait que cette ligue des toutes ces équipes-là, ces grandes équipes, que ce soit le Barça, surtout le PSG, construit des équipes, on pense plutôt que la Ligue des Champions est quelque chose de programmable. Gagner une Ligue des Champions, c'est quelque chose qui est rarement programmé. Elles sont rares, les équipes qui, en dehors peut-être du Barcelone de Guardiola, qui était extrêmement fort et on savait qu'il allait au bout certainement, mais rares sont ces équipes-là qui sont programmées dès le départ pour gagner la Ligue des Champions. Le Real en a bavé pendant plus de 10 ans pour gagner la Ligue des Champions après 2002. Il y a un esprit, en Afrique on dit en général que la Ligue des Champions ressemble à une sirène, et cette sirène-là on ne la voit que quand on a cet esprit, l'esprit divin. Quand on vient à la plage, on voit la sirène, pas tout le temps.
Oui, c'est la cerise sur le gâteau, la Ligue des Champions, on ne devrait pas l'espérer tous les ans.
Que les émotions, c'est important. Le Paris Saint-Germain a perdu 3-1 le match aller contre le Real Madrid. On a vu la semaine dernière que des renversements des 3-1, ça se retourne très facilement. La Roma l'a fait, la Juve a failli le faire contre le Real Madrid et à Bernabeu. Le Paris Saint-Germain, au match retour, à part une communication, ensemble on va le faire, venez avec votre maillot, je sais pas quoi, tout ça c'était de l'artifice sur le terrain, et c'est rien passé dès la première minutes, des joueurs complètement engoncés, frileux. Il n'y a jamais eu une once d'émotion de 6 mars en retour. Moi, je veux bien que mes équipes perdent. L'équipe de France, elle a le droit de perdre le Mondial. Le Paris Saint-Germain a le droit de perdre. Mon Barcelone a le droit de perdre. Mon Manchester City a le droit de perdre. Toutes les équipes que j'aime ont le droit de perdre. Mais en se battant, en montrant quelque chose. Si c'est pour être résigné, fataliste, c'est pas intéressant. Le Paris Saint-Germain, il n'a pas le droit d'être résigné comme ça.
Allez, le mot de la fin pour vous, Philippe Doucet. Vous disiez que vous vous ennuyez en regardant le football. En tout cas, le football de club, celui des championnats, la saison régulière, on va appeler ça comme ça. Mais alors, mettons que, voilà, je vous nomme à la tête de l'UEFA ou de la FIFA, vous avez les pleins pouvoirs, vous pouvez décider de changer les formules, vous penseriez à quoi ?
Alors, les formules, ça sert à rien. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un problème de base depuis l'arrêt Bosman, qui est qu'aujourd'hui, les meilleures équipes sont des sélections mondiales. C'est-à-dire que des sélections mondiales, bien supérieures d'ailleurs aux sélections nationales, et peuvent engager, s'il n'y a pas d'attaquant espagnol, c'est pas grave, on prendra le meilleur argentin, le meilleur brésilien, le meilleur, etc., etc. À force de laisser faire pendant des années, avec des accroissements d'écart sur les budgets, je rappelle juste que le PSG a 3 fois le budget de son second. Évidemment, ça autorise plein d'erreurs. On peut faire plein d'erreurs et être champion quand même. Et du coup, voilà ce qui se passe. C'est qu'on a des concentrations dans les meilleurs clubs. Et du coup, la Ligue des Champions, elle commence en quart de finale. Parce qu'avant, le premier tour, c'est une banalité, on s'en fiche. Bon, l'Atlético a fait une erreur. Bon, ok. Mais pour le reste, tout le reste, c'était prévisible, c'était même pas la peine de jouer. Et puis, même en 8e, il se passe pas grand chose encore, à part 2 oppositions comme ça vaguement. Et donc, le problème actuel du football, c'est ça. C'est que l'émotion manque, parce qu'il y a trop de domination de certains clubs.
Retour au terrain, Ousmane Dembélé inscrit hier son premier but en Liga, son deuxième
but
en compétition.
Pour répondre à la question, le retour de quotas nationaux est indispensable, de quotas nationaux ou quotas de joueurs formés au pays. Indispensable, sinon on ne sortira pas de ça.
Alors ça nous ouvre une possibilité d'autres débats. On aura pas mal de radio foot à remplir avec cette
Philippe,
piste.
Ça fait 20 ans qu'on
elle
fait
est, ça. Elle est ouais, intéressante.
Mais c'est obligatoire, sinon là c'est foutu. Le foot est foutu, je vous le dis moi. On va s'ennuyer, mais à mourir.
Il y a un minimum de quotas quand même, non ?
La Ligue, ouais, très faible, très faible.
Il y a des quotas en Ligue des Champions.
La Ligue des Champions, ouais. plus d'un match sur 3 a donné un score de plus de 3 buts d'écart. Vous rendez compte?
Mais Philippe, vous êtes inaudible. Vous êtes inaudible la semaine où on vient de vivre.
La
Juve qui a failli renverser le Real.
Je suis d'accord. Il y a eu deux trois accidents magnifiques. Trois accidents magnifiques.
Globalement, aussi.
Il y a eu une semaine de rêve. Okay.
Quel ennui, d'accord, mais on a l'impression quand même que la Ligue des Champions prend le pas sur les autres compétitions. On a l'impression que cette Ligue des Champions-là, d'année en année, Bien sûr, elle est prestigieuse, mais on a le spectacle, d'accord,
c'est pas
aussi extraordinaire qu'il y a quelques années, mais il y a eu une telle ferveur autour de la Ligue des Champions, une telle attente autour de cette Ligue des Champions. Mais si peut-être vous qui avez consommé le foot à la Ligue, mais pour les autres, non, les audiences en France, mais regardez les audiences sur le continent, vous allez voir.
C'est pas vrai, mais ça c'est vrai que à partir des quarts de finale, ok. Avant rien.
C'est vrai que dans les stades, ça fait pas le plein, devant les télés, ça fait pas le plein. Mais en revanche, les joueurs importants font de cette Ligue des Champions, qui vivent le Ballon d'Or, parce qu'aujourd'hui, c'est un sport individuel, le football. Donc les gens pensent qu'au Ballon d'Or, sur une ligne de départ, il y a 15 joueurs qui pensent qu'au Ballon d'Or, et donc ils savent que c'est pas en remportant le titre anglais ou français, c'est en gagnant la Ligue des Champions.
Après, là où je suis d'accord pour terminer le débat, c'est que justement, c'est pas la Ligue des Champions en elle-même qui passionne, ce sont quelques clubs qui passionnent, là je suis d'accord. Il y a le Real, il y a le Barça, il y a quelques grands clubs qui passionnent, et notamment chez la gente féminine qui de plus en plus aime la Ligue des Champions.
Il y a le Bayern de Munich aussi. Bon, alors je vous rappelle que j'ai amorcé une transition il y a quelques minutes, mais bon, c'est pas grave, il faut savoir improviser, il faut savoir s'adapter. Le débat s'est emballé, alors pourquoi pas. C'est aussi ça, la radio. Je reviens à Ousmane Dembélé. Alors là, c'est un peu moins flamboyant. Premier but donc inscrit hier en Liga, son deuxième cette saison, toute compétition confondue. Il arrive en août, il marque en Liga en avril. Dit comme ça, c'est pas brillant. Antoine Grosny, il a quelques circonstances, il bénéficie de quelques circonstances atténuantes, notre ami Ousmane Dembélé.
Oui, à peine. Enfin, il faut rappeler qu'il a au final joué 16 bouts de match avec le Barça, lui qui était arrivé pour être tout simplement titulaire. Seulement, on s'en souvient, hein, il a été titulaire dès son arrivée contre la Juve en Ligue des Champions, puis il a été aligné contre Retafe. Là, il s'est blessé, une blessure grave, 4 mois d'absence, une rupture du tendon du biceps fémoral de la jambe gauche, bref, il s'est blessé à la cuisse. Ça n'a pas facilité son intégration, également mis en cause son bras de fer avec Dortmund, hein, on s'en rappelle. Pour pouvoir être transféré, il ne s'était pas entraîné. Du coup, beaucoup ont vu là une cause à effet. Ensuite, il a été blessé mi-septembre, de retour début janvier, pour mieux retourner à l'infirmerie derrière 15 jours plus tard, pour 3 semaines, à nouveau la cuisse gauche qui grince, avant de connaître une très courte absence mi-février pour un problème gastrique. Du coup, ça fait 10 titularisations, un seul match complet contre Gérone pour Dembélé, le tout pour un seul but inscrit et 5 passes décisives en Liga. C'est très peu vu ce qu'il a coûté.
Je vous donne la parole tout de suite, mais il a une autre explication. Il a parlé à nos confrères de TF1 il n'y a pas longtemps, Ousmane Dembélé. Il explique un petit peu ses problèmes physiques.
Je ne vais pas dire que je suis au top de ma forme, mais petit à petit, ça revient. Moi, je dois travailler encore le cardio parce que moi, je me fatigue très vite sur le terrain. À Barcelone, j'ai une meilleure hygiène de vie qu'à Dortmund. Mais à Dortmund, j'avais pas une très très bonne hygiène de vie, mais je me blessais pas. C'est pas ça, je pense. C'est une partie, mais c'est pas tout.
Bon, avec la musique qui fait peur derrière, j'espère que vous êtes impressionné. Alors, il parle de son hygiène de vie, il dit que c'est pas que ça ou c'est presque pas ça, mais il en parle quand même.
On est heureux d'apprendre qu'elle n'était pas donc bonne à Dortmund. Ça fait plaisir.
C'est surprenant quand même.
C'est quand même un aveu fou, même si c'est vrai, faut pas le dire. Un joueur de football ne peut pas se montrer faible comme ça du point de vue médiatique.
Il a du talent. C'est bien, du talent, pour aider à cacher certaines lacunes.
Pour le journaliste que je suis, c'est génial qu'il dise la vérité, hein, mais bon, d'un point de vue de communication, si c'est incroyable, mais bon. Par rapport à ce qu'a dit Antoine, 16 bouts de match, 10 titularisations, il faudrait savoir dans quelle continuité. C'est-à-dire qu'il y en a quasiment, est-ce qu'il a réussi à faire 3 matchs de suite? C'est quasiment pas arrivé dans sa saison. Donc elle peut pas être bonne, sa saison, en termes de statistiques.
Il n'a pas joué les matchs importants.
C'est très dur ce qui lui est arrivé. Donc il va peut-être arriver au mondial, alors il sera frais. Mais c'est pareil, si vous jouez un match sur 5, vous avez moins de chances d'être bon que si vous jouez 3-4 matchs de suite.
Alors, on rappelle qu'il est très jeune, Ousmane Dembélé, qu'il est aussi très cher, il a été recruté, c'est pas de sa faute. Le Barça a accepté de payer ce prix-là, le prix que Dortmund a demandé, mais il a été payé très cher, Freddy Koula. Le constat, il est quand même pas terrible. Il y a un constat d'échec. Peut-on parler d'un flop et même pire, d'une catastrophe industrielle quelque part pour le Barça?
C'est clairement, moi, jusque là, c'est une erreur de casting du Barça. Ils étaient certainement dans l'urgence et c'était le joueur le plus talentueux à l'époque, qui était le plus accessible quand Neymar est parti. Mais après, quand ils ont eu Coutinho, bien entendu, au mercato d'hiver, tout a changé. Certainement, dans la tête du président barcelonais, ils se sont dit pourquoi on s'est précipité en prenant Dembélé. On regarde même dans les statistiques. D'accord, il a joué quelques matchs, mais il a joué quel type de match? Les matchs important, il n'a pas joué en Ligue des Champions. Quand Coutinho, qui n'est pas qualifié en Ligue des Champions, ne joue pas, Dembélé n'est pas titulaire. Ça prouve qu'en fait, en gros, peut-être qu'il sera un grand joker de luxe au FC Barcelone l'année prochaine encore. S'ils prennent Griezmann, il y a une vraie révolution qui va se faire au Barça. Ça va être extrêmement chaud pour Dembélé. Peut-être s'il fait un début de saison extraordinaire avec peut-être un nouvel entraîneur, mais je ne vois pas Valverde lui faire confiance davantage dans cette équipe-là.
Philippe, flop sans espoir, Ousmane Dembélé?
Non, pas sans espoir, c'est un joueur qui n'est pas fini. C'est un talent individuel, on parlait de sport individuel tout à l'heure. Dembélé, c'est un bon exemple. J'étais assez persuadé qu'il aurait du mal au départ avec le Barça, où il y a une culture de jeu qui est un petit peu plus évoluée que la sienne. Et donc, je ne suis pas surpris que c'était difficile, notamment à cause de sa blessure. Donc, je pense qu'il peut très très bien. Il a un talent fou. Je pense qu'il peut très très bien réussir l'année prochaine dans d'autres contextes.
C'est normal qu'il évolue à la Barcelone aussi vite. Vous êtes contacté par Barcelone à ce stage-là. Vous êtes à Dortmund après avoir été à Rennes et avoir fait que 6 mois à Rennes. Forcément, vous voulez y aller, mais tout ça est trop tôt. Tout ça arrive trop tôt, trop vite. C'est clair.
Mais le train peut ne pas.
Il y a quelque chose de positif. Excuse-moi, Hugo. Il y a quelque chose de positif après le match, après l'élimination à la Roma. J'ai vu quelques socios barcelonais louer l'entrée de Dembélé. Ils ont presque regretté que Dembélé soit pas titulaire. Ça prouve peut-être que Dembélé, c'est énigmatique,
quand
de plus en plus dans le cœur des socios, c'est important en Espagne.
Des choix de l'entraîneur Antoine Grenier, vous vouliez ajouter quelque chose?
Bah oui, Dembélé, il va surtout souffrir dans l'avenir de la comparaison avec Kylian Mbappé. Ils sont de la même génération et ils ont pas du tout fait la première saison qu'il fallait dans leur club respectif, Mbappé au PSG, lui à Barcelone. Mais là où Mbappé a quand même réussi à s'imposer dans une équipe où il y a une pléiade de stars, a réussi à être performant, même s'il l'était moins qu'à Monaco, Dembélé, lui, s'est effectivement planté. Dans la perspective du Mondial, je ne pense pas que ça lui coûte forcément sa place en équipe de France, parce qu'il fait partie des joueurs qui, offensivement, peuvent être des jokers de luxe pour Didier Deschamps. En revanche, dans l'avenir, s'il continue sur cette lancée-là et n'est qu'un joker, il faudra qu'il se pose les bonnes questions et éventuellement qu'il décide de changer de club.
C'est dur, hein, associer Mbappé et Dembélé en disant que c'était un peu des flops tous les deux. C'est dur quand même.
J'ai dit que Mbappé justement avait mieux réussi ça
pour l'instant Mbappé est en avance sur Dembélé.
J'ai pas parlé de flop, j'ai parlé de différence entre les deux.
Il y a rien à voir quoi, l'intégration vous dites qu'il a moins réussi.
C'est pour ça que je disais que Dembélé allait souffrir de la comparaison avec Mbappé.
C'est ça qu'à Monaco, moi je trouve que la saison qu'il a faite au PSG elle est fantastique quoi, dans un autre rôle, dans un autre contexte, c'est extraordinaire.
Disons que l'an passé il y avait l'effet de surprise, ça a été fulgurant l'an passé et là forcément il y a peut-être un temps de d'adaptation et puis temps de stagnation aussi qui est nécessaire lorsqu'on progresse.
Il a été moins impressionnant à Paris qu'il ne l'a été à Monaco, mais les attentes n'étaient pas les mêmes.
Quand vous êtes à Paris, l'exigence n'est pas la même. Tous les matchs sont regardés dans le détail, alors que les matchs de Monaco, bon, on va regarder les buts, on va regarder les choses sympathiques et on va se dire c'est génial. Oui, on voit pas tous les défauts à Paris, on les voit.
Bon, ça reste pas mal, Mbappé. On est d'accord là-dessus. Quant à Ousmane Dembélé, je lui adresse un message parce que je sais qu'il nous écoute très régulièrement. Il doit encore inscrire 103 buts pour faire aussi bien que Neymar sous le maillot du Barça, le Brésilien.
Il a quelques saisons
devant lui. Le Brésilien, qui je vous le rappelle et vous le savez mieux que quiconque, Dominique, n'est pas non plus épargné par les blessures et justement on va prendre de ses nouvelles.
Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Je n'ai pas de date précise pour rejouer, mais si je ne me trompe pas, je passerai un dernier examen de contrôle le 17 mai. Et à partir de là, je devrais être autorisé à rechausser mes crampons. Tout dépendra bien sûr de l'évolution, des résultats des examens, mais le 17 mai reste pour moi la bonne date. C'est difficile et même assez terrible, vous savez, d'être ici au Brésil pendant que mon équipe continue à jouer, à marquer des buts, à gagner des trophées. J'aimerais vraiment être auprès d'eux, mais je dois prendre soin de moi, de ma santé. Je veux arriver en bon état à la Coupe du Monde, je fais tout pour. Je fais mes soins tous les jours et j'attends de reprendre l'entraînement pour donner le maximum. Pour moi, le Mondial est un rêve qui s'approche. Ça fait 4 ans que je l'attends et maintenant il est là. Et je veux y arriver en grande forme.
Neymar a pris la parole hier au Brésil. Dominique, plusieurs choses dans son intervention. La première, c'est qu'il ne devrait a priori plus rejouer avec le PSG cette saison. Si son examen final c'est le 17 mai, le dernier match du PSG c'est le 19.
C'est ça.
On est d'accord, donc a priori plus de Neymar sous le maillot parisien cette saison. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est qu'il est triste de ne pas remporter tous ses titres, de ne pas participer aux célébrations avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Faut-il le croire? croire, sachant, je le rappelle, que son image, l'image de Neymar en train de jouer au poker pendant que ses coéquipiers battent Monaco 7-1, elle a pas mal fait parler.
Vous savez que la communication autour de Neymar, ça a presque été de dire, il aime tellement le poker que vous devriez être content. Il en a profité aussi pour regarder un match du PSG pendant qu'il joue au poker. Donc, alors qu'il adore le poker. Donc imaginez, il a profité pour regarder aussi un match du PSG. Vous devriez être content, le PSG.
Ça vous inspire quoi, cette communication, justement?
Écoutez, il est parti le 25, il s'est blessé contre le Marseille le 25 février et on est le combien?
On est le 18 avril.
18 avril, il a fallu attendre autant de temps pour qu'il donne un petit côté j'aime Paris, ça me fait de la peine de que mes coéquipiers soient pas là, de pas gagner d'être avec eux. Ouh, je l'attendais ce petit mot depuis longtemps. Alors mieux vaut tard que jamais. Je trouve que c'est un peu il n'y a pas beaucoup donné de preuves d'amour. Hein. Je sais pas si c'était Coquelot qui disait qu'il n'y a pas d'amour, mais il y a que des preuves d'amour. Il n'a pas donné beaucoup de preuves, l'ami Neymar, depuis qu'il est parti. Donc on voulait une. Je sais pas si elle est forcée. Il va pas rejouer avec son club parce que je pense que le Brésil, la sélection, met une pression de malade pour que ça se passe comme ils ont voulu. De toute façon, depuis le début, ils ont fait comme ils ont voulu. Hein. Il s'est fait opérer là-bas. La convalescence, elle est là-bas. Il revient pas à Paris s'il y a champion, pas champion, Coupe de la Ligue, pas Coupe de la Ligue, finale de la Coupe de France, tout ça, ils s'en foutent. Donc voilà, si le Brésil n'est pas champion du monde, ils pourront dire qu'ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes et pas à Paris.
Le PSG n'y est pas pour grand-chose.
Pour le coup, ils ont été complètement squeezés.
Si ce n'est quelques photos avec Antero Henrique et Nasser en t-shirt avec Neymar.
Il faut aller les voir. C'est lui qui convoque.
Effectivement. Oui. Et ça aussi, ça a du sens, Freddy Koula.
Ouais, depuis le début d'ailleurs, ça ressemble à une opération étatique du Brésil. De toute façon, ils étaient peu nombreux, je pense, à croire que Neymar reviendra avant la fin de saison au PSG. Et d'ailleurs, il n'y a plus le grand enjeu. Je pense que PSG, on n'aura pas de mal à gagner la coupe sans Neymar. Mais depuis le début, quand même, ça sentait que, voilà, lui, son objectif premier, c'est la Coupe du Monde. Annie nous disait, elle, qui connaît bien le Brésil, qu'il y a une telle ferveur, un tel sentiment de sulfure à l'approche de la Coupe du Monde qu'on verrait mal Neymar déroger à la règle de la préparation pour la Coupe du Monde, lui qui rêve évidemment d'effacer le cauchemar de 2014.
Alors justement, Philippe Doucet, il évoque la date du 17 mai pour un examen médical final pour acter son retour à la compétition, pas encore, mais au moins s'entraîner normalement, retoucher un ballon, s'entraîner tout court. Moins d'un mois plus tard, le coup d'envoi du Mondial sera donné. Il n'a donc que quelques semaines pour retrouver toutes ses sensations. Est-ce que c'est pas un peu court? Est-ce que le délai n'est pas un peu court? Est-ce qu'il faut s'inquiéter du rendement de Neymar à la Coupe du Monde, tout simplement?
On le connaissait, ce délai, à quelques semaines près. On savait que au mieux, il serait à l'entraînement vers le 15 mai. Bon, finalement, ce sera visiblement un petit peu encore après. Mais bon, globalement, on a bien compris que la priorité pour lui, depuis le début, c'est la Coupe du Monde. Et donc, il se prépare en fonction de ça. Et donc, je pense que l'examen, ils l'ont peut-être retardé très légèrement parce qu'il n'y avait pas de finale de Ligue des Champions, par exemple, à jouer ou autre. Donc, je pense pas qu'il faille s'inquiéter tant que ça parce qu'il aura le temps de revenir. Mais bon, c'est quand
même il n'aura pas joué pendant plusieurs mois.
Évidemment, c'est pas l'idéal. J'entends beaucoup de gens qui disent, ah ben, comme ça, il sera reposé. Certes. Mais enfin, les grands succès, on les prépare pas dans son canapé, hein. Jusqu'à preuve du contraire. C'est plutôt mieux de jouer des matchs importants, etc. Bon, mais en tout cas, il sera pas épuisé.
Mais ça me semble jouable par rapport à la nature de la blessure qui est pas non plus folle.
Non. Oui, c'est pas les croisés.
Voilà ça. Donc, je pense que c'est pas bien, mais c'est jouable.
Antoine Grenier.
Surtout, il a continué pendant toute sa période de blessure à s'entretenir physiquement. Il a dit qu'il travaillait.
Entre deux séances de poker.
C'est une forme de sport, le poker. Une forme de sport.
Oui, c'est vrai.
Simplement, au final, on peut presque se demander si, quand il a signé pour 220 millions à Paris, il n'avait pas tout simplement en tête un agenda parfait qui le mènerait reposé, frais, dispo vers la Coupe du Monde. Et que finalement, c'est pas pour moi que Paris a payé 220 millions d'euros. Mais on se dit qu'un joueur comme ça, à qui on a laissé finalement les clés du camion et qu'il l'abandonne en race campagne dès qu'il y a le moindre petit souci. Franchement, Neymar devait quitter Paris après la Coupe du Monde, très franchement, j'en connais qui se sentiraient un peu cocu.
Pour rebondir sur ce que dit Antoine, est-ce que ça pose des problèmes sur son retour cet été au PSG? Est-ce que ça relance le débat tout simplement sur son avenir sous le maillot parisien, sur les problématiques que pose la présence de Neymar à Paris, l'autorité de l'entraîneur, il va y en avoir un nouveau, son entente avec Cavani. Est-ce que ça relance un petit peu toutes ces problématiques-là, Dominique Serra?
Elles n'ont jamais vraiment disparu. Après, ce qui a changé depuis qu'on l'annonce partant, c'est qu'il faut lui trouver un point de chute. Et souvent, on parle du Real Madrid. Là, malheureusement pour lui, Cristiano Ronaldo, il montre pas vraiment de signe de déclin. Moi, je pensais que c'était l'année du déclin de Cristiano Ronaldo. Un soir de Turin avec une bicyclette à 2m30 du sol.
Des déclins comme ça, on aimerait en voir plus souvent.
M'a fait penser que c'était pas encore cette saison qu'il allait partir du Real Madrid comme ça, être exfiltré en 2 semaines. Donc, je pense qu'il va rester. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de club pour l'accueillir.
Ceci étant, Ronaldo n'a pas fait une saison complète. Hein. Rappelez-vous le début de saison de Ronaldo, il est absolument catastrophique. Il met plusieurs semaines à se mettre tout simplement dans le bas.
Au contraire, Antoine.
Oui, mais il faut avoir des joueurs.
Bon au début et
ça a coûté le titre au Real. Ça a coûté le titre au Real, cette méforme de début de saison de Ronaldo. Donc il faut avoir un joueur qui puisse jouer toute la saison.
Non, mais c'est volontaire. Zidane et Ronaldo, c'est une entente.
Bien sûr, le Real n'attend pas un autre joueur.
Pas tous en même temps, Philippe.
Le Real n'attend pas la bicyclette de Turin pour se dire, ah bah finalement, on reporte l'opération Neymar. Le Real travaille déjà depuis 3-4 mois pour faire venir Neymar en 2019. Ils l'ont programmé comme tel, sans doute comme Dominique le pressant, en se disant bah ça va peut-être être le moment où Ronaldo va avoir besoin de soutien, voire plus à ce moment-là, peut-être. En tout cas, leur opération financière, parce que c'est une opération financière gigantesque, elle est programmée pour 2019. Et ils vont pas la changer tout d'un coup parce que Ronaldo est bien, pas bien. Imaginez qu'il se blesse là demain. Est-ce que tout d'un coup, ils vont précipiter le recrutement de Neymar? Je suis persuadé que non. C'est des clubs sérieux, quand même. Il y en a.
Alors, on peut quand même dire qu'on passe beaucoup de choses à Neymar au sein du Paris Saint-Germain. On ne passe rien, en revanche, à Atem Ben Arfa. Quelques minutes pour parler de ce drôle de destin, ce drôle de trajectoire, celle d'Atem Ben Arfa à Paris. Il fait toujours partie de l'effectif du champion de France, mais pour l'instant, il ne l'est pas, champion de France, Antoine Grenier.
Si, sur la photo officielle du Paris Saint-Germain des champions, on le voit, hein, il est là, tout à droite.
Mais d'un point de vue réglementaire.
D'un point de vue réglementaire. Pour être considéré champion, hein, on rappelle le règlement de la Ligue, il faut que le club avec lequel on est sous contrat soit titré, donc ça c'est la première condition, mais que l'on ait participé à une rencontre au minimum. En clair, si on rentre à la 89e minute du dernier match de la saison, on est considéré comme champion, et ce même si on ne joue plus pour le club en question. C'est un des paradoxes d'ailleurs du Paris Saint-Germain. Ben Arfa n'est pas champion, mais Blaise Matuidi pourrait l'être, puisqu'il a joué 2 matchs avec Paris cette saison.
Rapide tour de table, est-ce que c'est un scandale de ne pas faire jouer Atem Ben Arfa, ne serait-ce qu'une minute, pour qu'il soit sacré champion de France? Est-ce que ce serait un scandale, parce que la saison
après
est pas
les terminée. Révélations que j'ai vues dans France Football, où on a clairement montré comment Ben Arfa s'est fait démonter, je pense que c'est une affaire personnelle de Nasser. Il se ferait humilier si Ben Arfa jouait, puisqu'il a promis qu'il ne jouerait plus jamais. Donc en gros, moi je ne pense pas que Ben Arfa ne jouerait pas, et Emery ne fait que suivre les instructions de son patron.
Quel que soit celui qui a pris la décision, c'est un scandale.
Vous pouvez développer quelques mots.
Vous avez pris ce joueur-là pendant 2 ans. Vous étiez bien content à l'époque. Toute l'Europe se l'arrachait. Il était libre et gratuit. Il allait signer à Séville. Vous étiez bien content de le convaincre à ce moment-là. Vous l'avez traité pendant 2 ans comme un moins que rien, comme du bétail. Ça serait une belle sortie, une belle forme de réconciliation pour tout le monde. On se serre la main, t'es champion. Et voilà. Plutôt que de se traiter comme ça, c'est que du football. Il a que fait une petite blague devant le supérieur
il a fait une blague sur Nasser devant l'émir.
Voilà.
On peut résumer ça comme ça. Et c'est là la source de ses problèmes.
Déjà susceptible.
Et limité Emery.
Donc là, il a encore plus froissé sa susceptibilité. Ce ne sont pas des raisons pour moi pour le traiter comme ça.
Philippe, scandale ou pas?
Si le sentimentalisme existait en football, ça se saurait. Et je pense que le prochain rendez-vous entre Atem Ben Arfa et le Paris Saint-Germain ne sera pas sur le terrain, ce sera à la commission juridique de la Ligue. Parce que le Paris Saint-Germain, en plus, fait quelques difficultés sur des histoires de primes et autres, et que la prochaine épisode il vient d'être déposé une réclamation devant la commission juridique. La prochaine fois qu'ils vont se retrouver, c'est là. Donc dans ce contexte-là, j'ai beaucoup de peine à imaginer que le dernier soir à la 88e minute on fasse si on faisait rentrer Atem, ce serait sympa. Après, je n'y crois pas du tout.
Antoine, dernier mot.
Si Ben Arfa n'est pas considéré comme champion, il touchera pas la prime de titre qui est à près de 500 000 euros. C'est rien pour le Paris Saint-Germain, mais symboliquement, c'est certainement une des explications. On va pas faire ce cadeau-là à Ben Arfa du côté de Paris.
Neymar, Ben Arfa, les artistes sont décidément à l'honneur aujourd'hui dans Radio Foot.
Swung in dangerously towards the near post, and Cameroon have the opening they wanted, and it's Samuel Eto'o who can prance up and down the touchline. Wome's ball in,
and the silence in Lagos.
So well, me, I get it by any means. They call us Fela Kuti, Samuel Eto'o. That Mandela money, call us Slater Smith, Black Mambazo, Fela Kuti, Samuel Eto'o. That Mandela money, call us Slater Smith, Black Mambazo.
Samuel Eto'o se décline dans plusieurs langues et même en chanson, il le mérite. Quelque part, difficile de trouver les mots justes pour décrire sa carrière et son palmarès. Trois Ligues des Champions, deux triplés consécutifs, 2009-2010, deux titres de champion d'Afrique, une médaille d'or olympique. Entre autres, la liste n'est évidemment pas exhaustive. Le Camerounais, ancien joueur du Barça, de l'Inter, actuel pensionnaire de Konyaspor. En Turquie, il joue encore, Samuel Eto'o, et était en Russie hier en marge d'un match de bienfaisance. RFI l'a rencontré par l'intermédiaire de son envoyé spécial permanent à Moscou, Daniel Valo. Samuel Eto'o en Russie, forcément, nous lui avons parlé du mondial qui arrive et des chances des équipes africaines qui sont engagées.
Il n'est écrit nulle part qu'aucune équipe africaine n'avait le droit de traverser le cap des quarts de finale. Souvent, nous mettons nous-mêmes certaines limites qui n'existent pas dans le football. Il est vrai qu'il y a des nations comme le Brésil, comme l'Argentine qui sont attendues, mais il n'est une fois de plus écrit nulle part qu'une nation africaine ne puisse gagner cette Coupe du Monde. Si nous regardons aujourd'hui les nations qualifiées, elles ont toutes leurs chances comme les autres. Quand vous voyez peut-être ce que Mohamed Salah fait avec Liverpool ou Sané, vous vous dites si ces jeunes croient, pourquoi ils ne peuvent pas faire comme les autres nations? Et nous, derrière, nous allons essayer de pousser pour qu'enfin une nation africaine aille le plus loin possible et pourquoi pas soit la dernière nation à avoir la joie dans cette compétition.
C'est une jolie formule, ça, Freddy Kula. La dernière nation à avoir de la joie dans cette compétition. Le grand frère a parlé, vous êtes d'accord avec lui?
Non, mais c'est des paroles extrêmement positives qui sont symptomatiques de l'individu d'ailleurs qui encourage assez souvent quel que soit le pays, quel que soit le footballeur qui brille sur la scène européenne, il est toujours là à employer des mots qui sont extrêmement positifs. Je pense que il a une idée qui voudrait que le football africain s'en sorte notamment au mondial, mais du point de vue structurel, est-ce que ces équipes là ont le même poids et le même pouvoir du point de vue sportif que les autres nations? Ça, c'est la bonne question. Et puis on peut toujours rester positif, mais les tirages sont moins favorables à ces équipes africaines-là.
Quatre Coupes du Monde à son actif, Samuel Eto'o, et si ma mémoire est bonne, il n'a jamais franchi la phase de poule.
Non, parce que le Cameroun, depuis son exploit de 90, on ne peut pas dire qu'ils aient réellement brillé en Coupe du Monde. Ils ont même terminé sur des parcours assez calamiteux. Mais les propos de Samuel sont tout à fait symptomatiques du fait que ce n'est pas une star camerounaise. C'est une star africaine, c'est une star mondiale. Et que donc, une star de ce niveau-là, en fait, a toujours, et c'est le même cas pour Didier Drogba ou autre, ils ont toujours des discours finalement assez généraux, et l'absence de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun n'y change rien. Ils vont être effectivement derrière toutes les équipes africaines, en espérant qu'il y en ait une qui sorte du lot, ce qu'on peut toujours espérer, mais en se rappelant quand même que les derniers résultats, la dernière Coupe du Monde, était à mon sens très très décevante pour l'Afrique, même si tout le monde s'est un petit peu caché derrière la performance de l'Algérie en 8e de finale contre l'Allemagne, mais le reste n'était pas bon, les résultats n'étaient pas bons.
Je fais le vœu que l'Égypte aille assez loin, que Mohamed Salah remporte la Ligue des Champions et qu'il soit Ballon d'Or à la fin de l'année. C'est le rêve et le vœu que je forme.
Justement, parce qu'il, comme vous, il en a parlé, donc de Salah et de Mané, les deux stars qu'on attend évidemment côté africain lors de cette Coupe du Monde. Ils ont récemment battu des records, Antoine Grenier.
Mais ils font mieux que ça. Ils impressionnent depuis le début de la saison. Liverpool a inscrit 78 buts. C'est la deuxième meilleure attaque de Premier League derrière Manchester City. Elle doit beaucoup à Salah et Mané. Salah qui a encore été buteur contre Bournemouth lors de la dernière journée. Il en est à 9 buts inscrits sur les 6 derniers matchs qu'il a disputés. C'est tout simplement faramineux. 30 buts, 9 passes décisives. C'est Salah le meilleur buteur africain en Premier League sur une saison devant, excusez du peu, Didier Drogba, 29 buts en 2009-2010 avec Chelsea, et Emmanuel Adebayor, 24 buts avec Arsenal en 2007-2008. Ça là, c'est juste phénoménal. Un petit mot quand même sur Sadio Mané. 10 buts. Lui, il a effacé des tablettes d'Embaba en devenant le meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Premier League. Il a inscrit 44 buts en Angleterre.
S'il pouvait être autant décisif avec l'équipe du Sénégal, c'est un peu le grief qui lui est fait d'ailleurs au Sénégal chez nous, parce que c'est ma deuxième patrie.
Freddy, je vous interromps. Justement, on va écouter Samuel Eto'o. Il nous parle un peu plus précisément de ces deux joueurs qui pourraient prendre la relève d'Eto'o, la relève de Drogba également.
On a essayé, nous, à une certaine époque, on a essayé d'écrire notre histoire. Et ces jeunes, la chance qu'ils ont aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons plus revenir en arrière. Mais pourtant, eux, ils ont la chance d'être là et d'écrire leur histoire. La seule chose que je puisse souhaiter à tous ces jeunes, c'est d'écrire la meilleure histoire possible pour eux, pour leur famille et surtout pour toute l'Afrique. C'est ce qu'on retiendra parce que, voilà, aujourd'hui, ils ont l'opportunité de jouer une Coupe du Monde, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Qu'ils prennent beaucoup de plaisir et surtout qu'ils sachent que nous serons là pour les accompagner.
Salah et Mané, ils doivent écrire leur histoire, nous dit Eto'o. Ça passe par une grande performance cet été en Russie. Est-ce qu'ils peuvent atteindre un jour le niveau, l'aura de Drogba et d'Eto'o, Salah et Mané?
Salah a beaucoup plus de chance parce que je pense qu'il a une aura beaucoup plus positive et le fait d'être en position de leader au classement de Première Ligue l'ouvre naturellement la voie royale. Il y en a d'ailleurs qui réclament qu'il soit déjà parmi les premiers au Ballon d'Or.
Dont
Dominique Sora. Mais pour ce qui est de Mané, la vraie problématique, c'est justement en équipe du Sénégal, il n'a pas la même équipe, le style n'est pas le même qu'avec Liverpool où il peut briller de façon libérale. Il a une liberté dans le jeu. Bien sûr, il a une liberté avec Alou Cissé, mais il n'a pas les mêmes statistiques en équipe du Sénégal, ce qui fait un petit bémol comparé à Salah, qui est dans une équipe beaucoup plus défensive et qui, heureusement ou malheureusement, l'équipe est taillée pour lui et joue pour lui, entre guillemets. Le bémol, c'est que, est-ce qu'il sera pas fatigué d'ici la Coupe du Monde avec l'incroyable saison qu'il fait? Est-ce qu'il va être aussi brillant si on fait des plans anti-Salah pendant la Coupe du Monde? Ce sont autant de problématiques qui peuvent poser problème à ces deux-là.
Salah Mané, ce sont les deux stars que l'Afrique attendait, justement, après les déclins d'Eto'o et Drogba. Oui. On a l'impression que Touré, Aubameyang, Mahrez, pour citer le récent palmarès des trophées de la Confédération africaine de football, n'ont pas assuré cette relève-là.
Oh, je pense que Yaya Touré, d'une certaine manière, l'a assuré, mais il y a eu...
Il est pratiquement de la même génération.
Il y a eu le problème, c'est qu'il était contemporain, même s'il est un peu plus jeune, mais contemporain de Drogba, et les bisbilles en sélection nationale n'ont pas arrangé la chose. Et Drogba étant toujours là, ça a un petit peu atténué son aura, mais c'était un joueur évidemment considérable. Aubameyang a souffert d'une raison très simple, et que Freddy connaît bien, c'est que son équipe nationale est néante, ou quasiment, elle l'est de plus en plus, et elle est trop loin, elle est très très loin de se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc ça, c'est une limite très forte. Il est vrai que, alors sur le talent, Aubameyang aurait eu sa place dans cette galerie, mais c'est vrai que Mané et Salah, avec l'exposition de la Coupe du Monde, là ont une chance effectivement historique d'être un peu les successeurs de Drogba et Eto'o dans le cœur des Africains. Oui.
Moi, j'ai rien contre Sadio Mané, mais il a pas l'aura, le charisme de Salah. Il est beaucoup plus solaire, beaucoup plus bankable. Je pense qu'on peut construire storyteller, comme on dit aujourd'hui, autour de Salah, alors que autour de Mané, c'est plus compliqué, et du Sénégal. Donc voilà. C'est pour ça que moi j'ai choisi entre guillemets Salah, celui qui me saute le plus à la figure et qui je trouve qu'a le plus de talent, mais c'est pas du tout contre Mané. Hein.
Et lequel a le plus de chances de briller à la Coupe du Monde? Salah, vous êtes catégorique là-dessus? Vous êtes tous d'accord là-dessus?
Non,
pas forcément.
Non, je suis pas
après,
d'accord.
Ça dépend dans
je suis pas
groupe.
D'accord parce que l'équipe d'Égypte me semble avoir un potentiel bien inférieur à celle du Sénégal. Elle est dans un groupe qui va être politiquement compliqué parce que c'est le groupe de la Russie. j'ai un peu de peine.
Il faudra jouer contre l'arbitre aussi, c'est ça?
Je dis pas ça, mais
contre Poutine.
je me dis que ça va être quand même assez compliqué de sortir d'une poule où il y a l'Uruguay et la Russie, pays organisateur. Même maintenant, l'Égypte peut me démontrer le contraire, j'en serais évidemment ravi. Mais c'est je ne suis pas sûr que la force de caractère soit la caractéristique de cette équipe égyptienne et il y aura beaucoup de choses qui seront contre elle.
Allez, le dernier mot pour vous,
Antoine Grenier.
Je suis pas du tout d'accord avec Philippe
sur ce coup-là parce que l'Égypte a montré lors de la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'elle n'avait pas participé depuis 7 ans,
elle est arrivée
en finale.
Salah l'a porté littéralement. Salah.
Défensivement,
ils sont extrêmement forts.
C'est une équipe qui n'aurait pas passé le premier tour. Sans Salah, ils ne passent pas le premier tour.
C'est une équipe extrêmement solide, disciplinée, sous les ordres d'un sélectionneur qui est certes pas flamboyant, qui est pas agréable. Vous voulez
qu'on passe
dire
finale,
tout ce qu'on veut de Victor Cooper. Au moins, ils ont fait une CAN. Ils découvraient la compétition. Ils sont allés jusqu'en finale. Il n'y a pas énormément d'équipes qui peuvent se targuer d'un tel résultat.
Il y a plein de gens qui la découvraient pas la compétition.
Bon, ils ont la chance.
Daryl la découvrait pas, par exemple.
El Neni aussi qui revient un peu, mais ça va le faire.
Alors rapidement, pour les dernières minutes, on va évoquer un fait d'actualité très récent. Le président de la Fédération congolaise de football, la FECOFA, Constant Omari, et trois autres dirigeants sportifs de la RDC placés en garde à vue à Kinshasa par la justice congolaise dans une affaire d'utilisation de fonds publics. La LINAFOOT, la ligue qui organise donc le championnat de football en République démocratique du Congo, a suspendu sa compétition. Donc le championnat, Philippe Doucet, une crise, on peut utiliser ce mot, en RDC et qui touche un championnat qui n'est pas n'importe lequel, c'est celui dans lequel évolue notamment le tout-puissant Mazembe, un club qui a remporté trois coupes continentales sur ces trois dernières saisons, qui en a même remporté d'autres avant. Un petit mot sur cette crise.
C'est évidemment on ne sait rien
pas forcément
pour l'instant
sur le fond de l'affaire, mais sur
le fond de l'affaire on ne sait rien, mais
sur les conséquences sur le championnat.
Alors les conséquences immédiates, c'est l'arrêt d'un championnat, ce qui est évidemment dramatique, ce qui me semble d'ailleurs assez spectaculaire, parce que est-ce que vous croyez qu'il faut arrêter le championnat sous prétexte qu'il y a un problème à la tête de la fédération? J'ose espérer que la FIFA puisse arranger
ces choses-là. C'est un geste de soutien. La LINAFOOT soutient Constant Omari et donc suspend son championnat pour protester.
Ça, c'est un super soutien d'arrêter le championnat. C'est une idée géniale. C'est une idée de génie. Mais plus globalement, je crois que ça va être de toute façon une année très troublée en RDC. On sait qu'il y a des élections présidentielles. On sait que le football n'échappe que difficilement à la politique. Constant Omari compris, visiblement.
Ouais, au-delà du cas symptomatique de la RDC, on voit les mêmes problèmes qui se répètent encore au Cameroun. Il y a également eu un comité de normalisation au Mali. Bref, le football africain a pas l'air d'arriver à se structurer, en tout cas au plan organisationnel, à être suffisamment solide pour organiser des championnats.
Mais les arrêts nationaux sont quand même très très importants. C'est pas anodin de pas avoir un championnat.
Les arrêts de championnat sont le mal de pas mal de pays africains. Le Cameroun, justement, les arrêts de championnat ont un effet sur les équipes qui jouent les coupes d'Afrique. Le Gabon, c'est pareil avec Mounana qui s'est fait éliminer alors que le championnat est arrêté pour les problèmes de finances. Ça va être pareil au Congo. Monsieur Omari, on sait bien, pour ne pas parler de lui nécessairement, on sait, j'en ai discuté avec quelques Congolais notamment qui disent qu'on sait tout ce qu'il y a autour du football congolais, les magouilles, le désordre, etc. Malheureusement, malgré tout, il y a toujours eu cette sorte de fluidité et de gestion opaque qui est toujours restée comme ça, sans impunité, quoi.
Les développements sur cette affaire, bien sûr, dans nos journées des sports, sur RFI. Freddy, il vous reste quelques secondes. Vous vouliez achever cette émission par un hommage.
Un hommage, avec peut-être une petite musique qui va nous être proposée.
Alors dites-nous rapidement.
Il s'appelle Magdios Makaya Mombum, c'est un grand musicien gabonais qui était grand fan de RFI et du football gabonais, qui nous a laissé justement hier vers minuit. Il est décédé au Gabon, il aimait le football. C'est un hommage que je voulais lui rendre à tous les Gabonais qui aiment le football.
Bonne soirée notamment, sur RFI. Voilà.